Vue du banc, le podcast pour comprendre le jeu, vous est présenté par PMU.fr.
Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans le 15e épisode de la saison 7 de Vue du banc. On se retrouve en ce lundi 14 décembre, même si vous écouterez peut-être le podcast plus tard, pour débriefer d'abord les gros chocs du week-end, notamment entre le PSG et Lyon, entre le Real et l'Atlético, et entre les deux Manchester, pour revenir sur les joueurs à suivre qu'on avait... Érigé en début de saison comme priorité à regarder, et puis on fera le tirage au sort de la Ligue des Champions, enfin on le fera, on l'analysera, on va pas s'occuper des boules, avec mes deux compères Norbert et Lagat. D'abord salut Florent.
Salut Raphaël.
Comment tu vas?
Ça va, nuit assez courte, beaucoup de choses à régler en ce moment, mais ça va, on tient.
À noter qu'on enregistre vraiment en simultané du tirage au sort de Ligue des Champions, donc il est possible qu'on ait des réactions via des onomatopées de temps en temps, et ça je compte sur Christophe pour le faire, salut Christophe.
Salut Raphaël.
Avec notamment l'homme du tirage au sort et sa tête d'indestructible. Je pense qu'il peut casser des murs avec sa tête. Je crois que c'est Monsieur Contessao, c'est ça?
C'est un sosie de Sergio Contessao. Je ne sais pas qui est la personne qui fait ce tirage. En tout cas, très heureux d'être là, puisque tu ne l'as pas dit, mais je n'étais pas censé participer. Oui. C'est le teasing qu'on avait fait en fin de dernier épisode. Et finalement, j'ai trouvé un peu de temps pour vous et pour mes chers auditeurs pour faire ça entre deux galères administratives à gérer.
Oui, on peut le dire, c'est ta dernière apparition officielle de 2020. Et tu l'as fait chez nous, et c'est un honneur pour nous, chez toi aussi, parce que c'est évidemment chez toi aussi. Alors messieurs, on va passer au match du week-end, et là je vais laisser Christophe se ranger au fond de la salle, parce que c'est sur un match qu'il n'a pas vu qu'on va commencer. Le match entre PSG et Lyon, Florent, que toi tu as vu, que j'ai vu. Un match assez particulier, parce qu'il y a des moments qui nous ont rendu fous, et notamment celui juste avant la mi-temps, mais on aura l'occasion d'en reparler. Mais l'OL de Rudy Garcia a pour une fois chercher à embêter le PSG dans son camp, et ça a fonctionné, et c'est peut-être le thème de cette rencontre pour toi.
Oui, c'est totalement le thème de cette rencontre, le PSG qui n'arrive pas à ressortir la balle. Par rapport à la rencontre de cette semaine, enfin du milieu de semaine face à Başakşehir, où en gros les Parisiens pouvaient avancer sans opposition jusqu'au niveau du rond central, voire dans les 40 mètres de Başakşehir, voire à l'entrée des 40 mètres de Başakşehir. Là, cette fois, Lyon opposait une résistance, on va dire, à l'entrée du deuxième tiers du terrain. Et c'est là que les choses se sont vraiment compliquées pour Paris, parce que les défenseurs n'ont pas trouvé de relais, tout simplement, dans l'entrejeu. Sur les côtés, c'était fermé par le positionnement et le pressing de Kadewere et Toko. Et dans l'axe, Depay bloquait l'accès à Paredes, soutenu par Thiago Mendes quand Depay sortait un peu plus haut. Et sur les côtés, Paqueta et Aouar fermaient les intervalles vers Verratti et Di Maria, avec surtout un énorme boulot de Paqueta qui a vraiment bouffé, mais vraiment bouffé Verratti. J'ai rarement vu Verratti autant en difficulté en Ligue 1.
Ouais, on en reparlera des performances individuelles. En effet, Paqueta, qui a, je crois, a été élu homme du match par les supporters lyonnais, qui ont eu de cesse de faire des références à Jeffrey Nadelaïd sur Twitter, j'ai vu. Ça m'a assez amusé. C'est vrai que pendant ce temps, à Nice, ça se passe pas super bien. T'as mentionné les sorties de balles, et c'est comme ça, grâce aux sorties de balles ratées, confuses, côté parisien, gênées par l'OL, que Kadewere a ouvert le score. Alors, je crois que c'est Kimpembe qui rate une passe vers l'intérieur, où il est emmené vers l'intérieur par les trois attaquants lyonnais, et à partir de là, Toko récupère et arrive à lancer Kadewere en une touche dans le dos de Kimpembe, qui était parti en conduction, en fixation, pour le dire en français.
Ouais, parce que il était parti en fixation diagonale, en gros, puisque c'est un peu ce que pouvait faire la porte qui s'ouvrait pour les deux Parisiens, parce que, comme je le disais, Kadewere et Toko venaient s'orienter de l'extérieur vers l'intérieur quand il sortait sur les défenseurs parisiens, les deux défenseurs excentrés. Du coup, il y avait pas de passe latérale possible, il y avait pas de montée balle au pied tout droit dans le demi-espace possible. Il restait que cette diagonale où ensuite évidemment les Lyonnais attendaient à l'intérieur avec Depay notamment, et c'est vrai que là Kimpembe se fait enfermer. Je pense aussi qu'il est très gêné par le fait qu'il ne peut pas se reposer sur son pied droit pour tenter une passe qui pourrait peut-être casser à ce moment-là le pressing lyonnais, même si elle est compliquée, il y a une passe vers Verratti qui est possible, enfin qui se dessine, on va dire, c'est plus vrai que de dire qu'elle est vraiment possible, et finalement, ouais, il perd ce ballon. Faut noter quand même que Paris a eu énormément de mal à ressortir la balle, néanmoins, les deux plus grosses occasions lyonnaises, où t'arrives sur une situation d'urgence dans la surface, en première mi-temps, ça vient d'erreurs quand même assez grossières, techniquement, des Parisiens. Il y a cette mésentente entre Kimpembe et Paredes et ce ballon perdu. Et juste avant, c'est une minute avant, il y a une première occasion où là, c'est Paredes qui fait une, une connerie tout seul sans forcément être trop pressé. Donc au-delà des difficultés, on va dire tactiques pour ressortir la balle, on avait aussi un Paris qui était très très loin de son niveau, je pense, sur le plan technique.
Alors, avant qu'on parle de ce qu'a bien fait l'OL, un dernier point sur le 3-5-2 parisien, en parlant entre nous en privé, on sait que tu es assez friand de l'idée et du potentiel de ce système, notamment par rapport à ce que peut faire Neymar et Mbappé. Qu'est-ce qui t'a déçu dans le fonctionnement de ce 3-5-2 contre l'OL? On rappelle que là, c'était pas Mbappé qui a démarré en pointe, c'était Keane avec Neymar, qu'il y avait Florenzi à droite, Bakar à gauche et un milieu à 3, Paredes, Verratti, Di Maria.
En gros, face à Başakşehir, on avait un 3-5-2 qui fonctionnait parce qu'il trouvait des relais à l'intérieur, etc. Donc on trouve des relais intérieurs, on fixe intérieur, on ressort extérieur. Là, les Lyonnais ont vraiment bien fermé l'intérieur, donc il y avait sans doute des relais à trouver plus sur les extérieurs pour ressortir le ballon, quitte à revenir à l'intérieur après, mais ou surtout à utiliser la profondeur. Et j'ai trouvé qu'ils ont souvent oublié Florenzi à droite, qui était assez souvent libre, sachant qu'à partir du moment où il était servi, en une touche, ça pouvait partir et créer un contrat entre Keane et Denayer. C'est arrivé une fois, je crois, en première mi-temps.
Il a notamment été oublié par Neymar juste avant la mi-temps, Florent.
Oui, ça c'est, et encore, ça c'est un décalage, c'est un peu plus haut sur le terrain. Mais il y a une deuxième chose qui m'a déçu sur ce match, c'est qu'à partir du moment où tu n'arrives pas à construire tes actions, il te reste quand même un autre moyen d'être dangereux, ce sont les transitions. Et avec la balle, l'OL avait quand même une approche très très directe, très très verticale, et qui mettait parfois beaucoup de joueurs devant le ballon, voire assez haut, parce que l'idée c'était vraiment de mettre du nombre pour mettre en difficulté la ligne défensive parisienne, qui est nombreuse, puisqu'il y a cinq joueurs quand ils défendent. Et j'ai trouvé sur des séquences où les Parisiens justement récupéraient les ballons, donc on avait un perte de construction parisienne, perte de balle parisienne contre Lyonnais, mais recontre possible du PSG. Sur ces ballons-là, ces ballons de récupération en gros, là je pense que Paris avait beaucoup mieux à faire, notamment dans certains réflexes d'attaquants qui décrochent alors qu'ils devraient plutôt prendre l'espace. Là je pense à Neymar qui par exemple va en première mi-temps alors que Paris ressort sur un coup de pied arrêté défensif. Neymar, au lieu d'offrir une course vers l'avant, va quand même demander la balle quasiment dans les pieds de Verratti. Alors que bon, si c'est Verratti, t'as pas besoin de lui demander la balle dans les pieds. Tu peux aller faire une course, lui ouvrir un peu d'espace et permettre à l'équipe de remonter, voire offrir une balle, enfin donner l'opportunité à Verratti de te servir en profondeur. Il y en a deux trois comme ça, une récup de Diallo en tout début de match, ou en une passe, il peut trouver Neymar tout seul dans le rond central, et c'est un 2 contre 2 derrière, qui finalement décide de jouer, je sais plus ce qu'il fait, mais il ne fait pas cette passe-là. Enfin voilà, des premières passes après la récup qui auraient pu être beaucoup plus tranchantes côté PSG. Et puis je pense que là, t'avais vraiment un axe d'amélioration, parce que c'est vrai que les soucis structurels au moment de la sortie de balle, je pense que certains joueurs, notamment Verratti, n'étaient pas forcément non plus en état de les régler d'eux-mêmes. Et d'ailleurs, au bout de 15-20 minutes, tu vois la structure du PSG qui s'était très bien tenue face à Başakşehir se désagréger, Verratti qui va décrocher trop bas, et du coup plus personne dans l'entrejeu parce que Neymar lui respecte sa position plus haut. Enfin bref, beaucoup de soucis. Mais bon, tu peux aussi prendre ça d'un autre côté, c'est que Paris, dans ce système-là, n'avait jamais rencontré ce genre de problème. On va voir s'ils arrivent à les régler lors des prochains matchs, parce que Lille, qui arrive assez vite, devrait, je pense, dans un système différent, mais pouvoir s'inspirer de ce qu'a fait l'OL dans la hauteur de bloc et l'approche générale.
Alors, passons à l'OL, justement, qui a gagné au Parc pour la première fois depuis quand, je ne saurais dire. En tout cas, en championnat, ça doit faire quelques temps, parce que j'ai pas souvenir d'une victoire lyonnaise en déplacement contre le PSG en championnat comme ça. Avec un système en 4-3-3 de ce côté-là, et peut-être ce sur quoi on va insister sur ce match, Flo, c'est la qualité du milieu lyonnais, avec Mendes en 6, Aouar et Paqueta en relayeur. Alors déjà, philosophiquement, c'est deux relayeurs qui sont capables de t'apporter avec ballon, mais qui ont bossé aussi, et c'est peut-être ce qui ressort de cette OL depuis quelques semaines, quelques mois, même si certaines titularisations et statuts ont mis du temps à être compris, et même par nous, Toko Ekambi, Kadewere, Depay, c'était pas forcément évident au début, mais t'as beaucoup de mecs qui courent, qui font les efforts défensivement, et là ça s'est vu, pas sur un bloc bas comme d'habitude dans les gros matchs de l'OL, mais sur un pressing haut.
Oui, après il y a d'autres versions de l'OL qui avaient fait des résultats face au PSG en allant presser haut.
Oui, mais là, Genesio, ouais.
Mais c'est vrai que c'était intéressant de par le fait que le plan était quand même parfaitement exécuté par les deux premières lignes, en gros, parce que la troisième, elle a quasiment rien eu à faire sur ces séquences. Et oui, bah il a trouvé en même temps Depay Kadewere est rentré dans l'équipe, notamment parce que c'était un des joueurs, je crois, les plus actifs défensivement. Il me semble qu'il y a des stats qui sont sortis dans ce domaine. Et c'est un des joueurs qui faisait le plus de pression, ouais. Un des joueurs offensifs qui faisait le plus de pression, en tout cas dans l'effectif lyonnais. Je ne sais plus si c'est en Ligue 1, mais dans l'effectif lyonnais, c'est sûr. Et c'est vrai qu'au milieu, ça a très bien fonctionné. Et moi, j'ai particulièrement été étonné, mais peut-être que je ne connaissais pas assez le joueur, par Paqueta, qui a, comme je l'ai dit tout à l'heure, a vraiment dominé et surdominé Verratti dans sa zone pourtant préférentielle, et qui a vraiment su fermer un intervalle et un axe côté PSG qui pouvait être quand même un axe très fort, c'est-à-dire l'axe t'as Kimpembe, Verratti et Neymar derrière, et ça c'est très 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 fort, et j'ai pas grand chose à ajouter après ça, si ce n'est qu'il m'a surpris.
Je vais te relancer sur le classement en Ligue 1 actuellement, parce que Lyon a pris la première place avec Lille en attendant les deux matchs en retard de Marseille. On a vu que Neymar était sorti sur blessure suite à un tac de Thiago Mendes à la dernière minute du match. On attend de savoir ce qu'il en sera, ouais. Exactement. Mais est-ce que tu vois ce PSG prenable par rapport à son projet de jeu, par rapport à ses difficultés contre les gros? C'est pas la première fois cette saison, ils avaient eu du mal à se créer des occasions contre l'OM aussi, mais qui avait joué complètement différemment. Donc c'est peut-être la première fois depuis longtemps que plein de plans de jeu différents, bloc bas, pressing haut, bloc médian parfois, gênent autant le PSG en si peu de temps. Je crois qu'ils sont déjà à 4 défaites en championnat. Je t'avais posé la question en début de saison, il faudra quelle avance aux autres clubs pour que le titre soit jouable? Alors l'avance, ouais, ils l'ont perdu vite parce que le PSG avait enchaîné une série de victoires. Là, finalement, Lille et Lyon ont un point d'avance, Marseille pourrait en avoir 4 en gagnant ces deux matchs. Est-ce que sur la durée, si on dit que Neymar rate, je sais pas, quelques semaines de compétition au minimum, tu imagines un autre candidat au titre que le PSG?
Bah là, concrètement, pour l'instant, il y en a 4 aujourd'hui.
Ouais.
Lyon, Lille, Paris, Marseille, si tu prends le classement, si tu prends les expected points, il y en a 2, c'est-à-dire que là je les ai sous les yeux, les expected points après 14 journées, Lyon a 31 points et est en tête, j'arrondis, hein. Le PSG a 28 points, juste derrière, et ensuite tu as Lille qui a 26 points, Monaco 25, Rennes 25, et après ça descend, sachant que l'OM pour l'instant aux expected points, même si ça va un petit peu mieux depuis quelques matchs, ils sont 15e ou 16e, je sais plus.
C'est une des équipes les plus en réussite d'Europe, hein, je pense.
Avec 16 points et une dizaine de points pris de plus par rapport aux expected points, mais ce qui est intéressant pour l'OM, c'est que depuis 2-3 journées, ils gagnent les matchs qu'ils doivent gagner. Et ça, c'est une nouveauté. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont passé 8-10 journées à avoir beaucoup de réussite. Mais depuis 3 matchs, ils font fructifier cette réussite puisqu'ils prennent des points en étant devant aux expected goals la plupart du temps. Donc, c'est quelque chose qui est en train de très très bien tourner pour Marseille. Villas-Boas a su profiter de la réussite du début de saison et là semble avoir trouvé une formule qui tourne. Bref, aujourd'hui, c'est difficile de dire autrement. Maintenant, il reste 4 journées. Il reste notamment ce match de dimanche prochain, je crois, entre Lille et le PSG, qui, à mon avis, sera l'occasion d'y voir encore un petit peu plus clair quant au fait que Paris aura ou non des concurrents sur la phase retour, en tout cas sur la phase aller. Ça me paraît évident. Maintenant, j'ai l'impression aussi que physiquement, Paris a beaucoup moins bien digéré le Final 8 que Lyon. Parce qu'il me semble aussi hier qu'il y avait une vraie différence à ce niveau-là, dans la vélocité, dans l'impact, dans les différences que les joueurs étaient capables de faire. J'ai l'impression qu'il y avait beaucoup plus de jus et beaucoup plus de capacité de résister au contact et de puissance côté lyonnais que côté parisien. Donc je pense aussi que ça joue sur cette période. Et il faudra aussi voir comment toutes ces équipes, il y a Paris-Lyon, mais il y a les autres derrière, mais Paris et Lyon ont fait le Final 8 de Ligue des Champions au mois d'août. Comment toutes ces équipes vont revenir après la trêve? Est-ce que ça va faire des stages? Je crois que Paris a l'habitude de partir faire des stages au Qatar, il me semble, pendant cette période-là. Mm. Comment Paris va revenir au mois de janvier? Dans quel état physique? Est-ce que la semaine de trêve ou les 10 jours, ça va suffire pour un petit peu remettre les compteurs à zéro de ce point de vue. Tout ça, ça va à mon avis être très intéressant et ça va vraiment conditionner la suite de la saison.
Ouais, écoute, il y a deux choses. Un, j'imagine l'état mental des Lyonnais s'ils sont champions avec Rudy Garcia. Je sais pas.
Il va prolonger, hein. De toute façon.
ça va être le premier truc qui va les rendre fous ou heureux, je ne sais pas. Ça va être particulier. Et deux, Christophe, toi qui es attentif depuis tout à l'heure, je l'imagine, tu regardes le tirage au sort. Est-ce que tu as vu Stéphane Chapuisat galérer à ouvrir les boules?
Oui, mais je n'avais pas reconnu Stéphane Chapuisat. J'ai dû aller sur Twitter pour voir que c'était lui. En même temps, j'avais plus trop de souvenirs à sa tête, mais il a pas super bien vieilli. Mais effectivement, après, je pense que je galérerais aussi à ouvrir les boules, je m'énerverais, je les casserais.
Ouais, là, je le vois encore lutter. On parlera du tirage juste après, là. On va rien dire pour l'instant. De toute façon, quand vous écoutez, vous connaîtrez le tirage. Mais on le fera tout à l'heure, juste après les matchs. Christophe, je passe avec toi pour parler de Real Atlético Madrid. Victoire 2-0 des hommes de Zidane à domicile dans leur petit stade d'entraînement avec un but de Casemiro, ton poulain, et un CSC d'Oblak, mais qui est un CSC sur une frappe puissante de Carvajal où Oblak se la met parce qu'en fait il est quasiment sur le ballon, là où pas mal d'autres gardiens auraient été en retard et l'auraient pas mis dans leur but. On peut le résumer comme ça, je pense. Mais un Real largement supérieur à l'Atlético, comme il avait été largement supérieur à Gladbach. Et c'est dans la lignée des dernières bonnes performances du Real là-dessus. Pas de surprise, c'est plutôt décevant de la part de l'Atlético d'être allé là-bas et sans proposer vraiment de menaces et de défis aux hommes de Zidane.
Ouais, alors déjà, c'est un match où il faut regarder le... Enfin, vaut mieux regarder le match que regarder les stats pour le comprendre, parce que je pense qu'aux expected goals, le Real termine très très bas. Il me semble que même l'Atlético est devant. Parce que Lemar rate une énorme occasion de 1 partout seul au deuxième poteau où il accroisse trop. Donc là-dessus, ça pouvait faire 1-1. Potentiellement, ça peut changer la dynamique du match. Maintenant, quand tu regardes le contenu, ça aurait été quand même assez étonnant que le score soit nul. Je pense que c'était vers la 53-55e par là, parce que le Real était largement au-dessus. Il y a deux volets. Il y a un, le fait que Madrid finalement retrouve un niveau très 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 haut depuis qu'ils ont le retour de cette tripleste Kroos, Casemiro, Modric. Tu avais un peu des soucis pour l'un pour l'autre à tour de rôle, et là pour ça c'est dans la lignée de ce qui était proposé en milieu de semaine face à Gladbach, à savoir vraiment une capacité de et Kroos et Modric, parce que Casemiro c'est dans un rôle différent, lui c'est plus sans ballon, plus alors parfois pour se projeter, mais sinon plus pour équilibrer. C'est vrai que sur la relance il est assez déresponsabilisé, il a tendance à passer en pointe haute et vraiment à squatter au milieu de terrain en laissant Kroos ou Modric ou les deux lui amener le ballon. Donc c'est sûr que là-dessus c'est un rôle technique un petit peu différent, mais c'est vrai que les deux autres qui sont des trentenaires qu'on imaginait plutôt sur le déclin, même si autant pour Kroos, il y avait quand même... Alors, il y a eu des rebonds à chaque fois, mais ça semblait être assez linéaire. Autant pour Modric, c'est beaucoup plus sinusoïdal. Post-Coupe du Monde, il a eu du mal, puis ça revient, puis ça repart. J'ai l'impression que Modric est toujours capable de vraiment retrouver des niveaux très intéressants. Donc là-dessus, c'est pas si étonnant que ça, même si ça remonte un peu assez haut, je trouve, sur le plan physique. Autant Kroos, il y avait un déclin... autour 2017-2018, alors déclin à son niveau, hein, il partait de très haut, mais ça semblait s'éroder petit à petit, et là, depuis même l'an dernier, ça remonte vraiment bien, et quand t'as les deux qui sont à la fois capables de courir et qui gardent leurs pieds, le pied, il n'y a pas d'incertitude, la capacité à faire les efforts, c'était plus incertain, bah, tu peux à la fois, hein, bien sûr, sortir proprement le ballon, et être une espèce de machine à pressing, c'est pas incroyable non plus, façon Leipzig qui va courir partout, mais tu vas être capable de t'installer dans le camp adverse, et de faire ces courses-là. Donc ça, c'est la première chose. On va dire que c'est le volet Madrid, et là-dessus, il n'y a pas non plus un milliard de choses à raconter par rapport à ce qu'on avait dit face à Gladbach, à savoir que les trois derniers matchs, c'est quasiment les trois meilleurs de la saison. L'autre volet, c'est l'Atlético qui, comme tu le disais, a été très décevant, n'a pas montré grand-chose.
Pardon, je vais mettre du temps à remettre mon micro parce que on vient de voir que le Barça et le PSG vont se jouer une fois de plus en huitième de finale, et du coup j'étais en train de, je sais pas si Flo t'avait vu, j'étais en train de lire les réactions sur Twitter et de voir que les gens sont à la fois contents et exaspérés. Parce que bon, après c'est peut-être le meilleur Barça à prendre, mais on en parlera tout à l'heure, c'est assez amusant de voir que c'est hyper répétitif. Ce sera Neymar contre Messi, il y aura plein de trucs à raconter pour la presse. Alors, Real Atlético, est-ce que tu as vu le match, Florent? Je crois que tu l'avais vu.
Oui, je l'ai vu, ouais.
Qu'est-ce qu'on peut rajouter à ce qu'a dit Christophe qui a évoqué pas mal de choses, peut-être l'entrée de Lemar qui arrive un peu tard même s'il rate une occasion, Joao Félix et Luis Suarez qui sortent tous les deux en cours de match, qui sont remplacés par des joueurs au profil plus défensif parce que Simeone joue l'aller-retour. Je sais pas, qu'est-ce qui t'a marqué dans cette rencontre entre, je vais donner les deux 11 comme ça pour resituer, parce que tout le monde n'a pas forcément vu. Courtois, Mendy, Ramos, Varane, Carvajal côté Real, Casemiro, Kroos, Modric au milieu, Vinicius, Benzema et Lucas Vazquez devant, côté Atlético, donc un système en 3-5-2 comme c'est le cas depuis quelques matchs, une fois sur deux, même s'il y a parfois des alternatives. Oblak, Hermoso, Felipe Savic, Carrasco côté gauche, Trippier côté droit, Llorente, Koke, Herrera au milieu de terrain, et donc Joao Félix et Luis Suarez. Flo.
Ouais, non, juste sur l'Atlético, dont l'approche, je pense, de départ était d'attendre avec ce 3-5-2 et d'attendre justement le déséquilibre côté madrilène et placer une contre-attaque. Ils avaient abordé le match face au Barça de la même façon, et j'ai l'impression que vu l'avance qu'ils ont au classement, puisque là maintenant ils ont plus que 3 points d'avance sur le Real, mais avec un match en moins, il me semble. Ça a vérifié, mais je crois que c'est ça.
Que c'est ça, parce qu'il pouvait être à 9, oui.
Ouais, je pense que c'est ça. Je me dis que Simeone se dit, sur les confrontations directes face au Barça, face au Real, on va jouer à minima, on va viser le nul et au mieux les contrer. Parce que c'est vrai que le Real avait quand même montré certains problèmes d'équilibre dans des matchs face à des adversaires beaucoup moins dangereux. Donc tu te dis, si Cadiz est capable de battre le Real comme ça, peut-être que nous aussi on en est capable. On est l'Atlético quand même. Donc je pense qu'il se dit, de toute façon, le titre, il va falloir aller le chercher en faisant un sans faute contre tous les autres. Et contre toutes les autres équipes, a priori, cet Atlético-là est beaucoup plus intéressant à voir que les saisons précédentes. Je ne peux pas non plus me prononcer trop là-dessus, donc je laisserai Christophe confirmer ou pas. Et dans les gros matchs, on va surtout essayer de ne pas perdre de points pour ne pas permettre au Real ou au Barça, qui ont du mal à être réguliers cette saison. Je pense que l'idée de l'Atlético, c'est pas forcément d'être meilleur que le Real et le Barça sur les confrontations directes, c'est d'être plus régulier qu'eux sur l'ensemble de la saison. Et c'est possible, c'est pas impossible que l'Atlético ait aujourd'hui la profondeur d'effectif pour pouvoir être régulier sur l'ensemble de la saison de Liga, avec les 2-3 talents en plus pour faire des différences dans les matchs un peu fermés. Pour l'instant, disons que il a eu tort sur ce match, mais le classement lui donne raison aujourd'hui, à voir si ça va tenir jusqu'en mai. Mais il me semble que l'Atlético avait quand même une marge un peu plus grande que les saisons précédentes dans les autres rencontres que face aux principaux concurrents. Je sais pas ce qu'en pense Christophe.
Oui, c'est vrai que l'Atlético, tu m'avais déjà fait la réflexion pendant le match sur la double approche. À savoir, si tu peux ne pas perdre contre les gros et gagner contre les petits, ça peut te permettre de gagner le titre. C'est vrai que le banc est pas loin d'être le plus costaud de Liga. Je pense que celui du Real est quand même très bon, même si les joueurs qui étaient d'habitude sur le banc et qui ont été titularisés au gré des blessures des différents joueurs n'ont pas tous montré leur capacité à hausser leur niveau. Donc du coup, il peut y avoir certaines incertitudes, typiquement sur le Isco actuel, le Asensio actuel, même le Marcelo actuel, puisqu'il est désormais remplaçant de Ferland Mendy dans la hiérarchie. Donc c'est vrai que là-dessus, tu peux te dire que quand tu regardes le banc de l'Atlético là sur ce match, les entrées de Correa, Renan Lodi, Saúl, Lemar, Kondogbia, il reste sur le banc Versalco, Torreira, Vitolo. Rien que ça, sur les joueurs disponibles, c'est quand même assez intéressant. Il y a Diego Costa qui finira bien peut-être par revenir un jour et par faire un ou deux mois sans être blessé. Ce que je trouve assez intéressant, je ne sais pas si c'est suffisamment répété, mais en tout cas, moi, c'est quelque chose que je trouve assez immuable. C'est le fait que pour gagner la Ligue des Champions, ce qui compte, c'est ton niveau plafond. Et pour gagner un championnat, ce qui compte, c'est ton niveau plancher. Et le Real a toujours eu, ces dernières saisons, notamment avec Zidane, un niveau plafond très haut. Donc du coup, quand il fallait jouer à bloc sur les gros matchs de Ligue des Champions, cette équipe-là était capable d'atteindre des niveaux très très élevés. Et quand je vois ce qui a été fait... Alors, moins face à cet Atlético-là, même si c'est toujours un adversaire un petit peu chiant, mais face à Gladbach en milieu de semaine, je me dis que le niveau plafond du Real est encore très élevé, comme celui du PSG, par certains aspects, me semble aussi très élevé. C'est pour ça que j'ai tendance à faire de ces équipes-là des favoris, en tout cas des gros candidats pour la victoire en Ligue des Champions. J'ai encore des doutes sur le niveau plancher du Real, parce que quand je vois ce qui a été fait face à la Vesse ou d'autres, je me dis qu'il y a possibilité de reperdre des points à droite à gauche, même si ces joueurs-là, t'as pas forcément trop besoin de les driver quand ils sont à ce niveau-là et qu'ils pourront te gagner pas mal de matchs. Mais j'ai l'impression que l'Atlético a monté son niveau plancher par rapport aux dernières saisons, où il y avait très facilement des 0-0 sans rien proposer, et du coup tu perdais des points ça et là face à des adversaires relativement abordables. Le fait d'avoir une animation offensive plus ambitieuse la plupart du temps, parce que du coup cette défense à 3 là te permettait de bétonner plutôt en étant à 5. D'habitude c'est vraiment plutôt orienté à 3 pour faciliter les sorties de balles et pour mettre plus de monde dans le camp adverse, avoir un jeu plus fluide en occupant les demi-espaces, etc. Avec Llorente, avec Lemar sur certains des matchs précédents, je pense te permet d'être plus dangereux, de faire peser plus de menaces et du coup de gagner des matchs où tu faisais nul la saison dernière ou les saisons précédentes d'ailleurs. Donc ça dépend pas que d'eux, parce que je vois pas l'Atlético à 90 points par exemple, je pense que ça sera plus vers les 85-88 à voir, hein, mais en tout cas ça sera pas comme le grand Barça ou même celui de Valverde qui avait perdu qu'un match sur la saison. Mais c'est vrai que dans la configuration actuelle des différents championnats et notamment de la Liga, je trouve que l'approche de l'Atlético, même si sur ce match-là elle est hyper décevante parce qu'ils ont rien fait, mais finalement elle est à peu près la même que face au Barça alors que c'était passé. Je pense que c'est peut-être la plus pragmatique pour espérer gagner un titre de champion cette saison, qui, dans la plupart des championnats, est plus abordable, même dans tous les championnats d'ailleurs, plus abordable que les saisons précédentes.
À noter que du coup, le Real a mis la moitié des buts encaissés par l'Atlético en championnat cette saison, sur ce match. L'Atlético a encaissé 4 buts et là, ils en ont pris 2, dont le CS et Oblak, je le disais, même si ça doit autant à la frappe de Carvajal qu'à Oblak. Qu'est-ce qu'on peut rajouter ? Peut-être un dernier point, Christophe, sur le coaching de Simeone. Qui a fait parler, parce que j'ai pas parlé avec qui que ce soit du coaching de l'Atlético, mais qui m'a surpris en regardant la rencontre, surtout la sortie de Félix et Suarez remplacé par Kondogbia et Saoul. Alors autant à la mi-temps j'ai trouvé que Renan Lodi et Thomas Lemar avaient apporté pas mal, entre El Correa un peu moins, mais la double sortie en 15 minutes de Joao et Luis, qui d'ailleurs étaient tous les deux assez énervés, les deux ont fait des gestes d'humeur, Joao Félix il avait tapé dans un truc sur son banc, et bon, Luis Suarez quand il est pas content tu le vois vite. Et Saoul et Kondogbia sont rentrés, mais pour faire quoi ?
Bah, en fait, plus que pour faire quoi, parce que je pense que c'était vraiment essayer de un peu plus contrôler le milieu de terrain, et en gros, faire que quand tu lances un joueur, ça soit pas à 40 mètres du but, mais à 30 mètres, donc peut-être avoir moins de finisseurs, mais du coup plus de maîtrise, et étouffer le Real, même si le Real n'a jamais été totalement étouffé, même sur la fin de match où l'Atlético a réussi à mieux récupérer les ballons, mais en gros faire que le point névralgique de la bataille, ça soit pas dans ton camp mais dans le camp adverse à 40-35 mètres. Maintenant, il y a deux, je pense qu'il faut vraiment séparer les deux. C'est autant la sortie de Joao Félix est très étonnante parce que intrinsèquement je pense que c'est peut-être ton joueur le plus talentueux, et même s'il faisait pas un match dantesque non plus, à tout moment il peut te faire basculer la rencontre sur un geste, sur une percée, il fait peser une menace constante, il a encore des jambes assez fraîches puisqu'il est encore très jeune, et il sort à 0-1, donc du coup là tu peux être un peu étonné, et surtout Diego Simeone laisse Luis Suarez encore une dizaine de minutes sur le terrain avant de sortir pour faire entrer Kondogbia, alors que Suarez, tu le vois quasiment pas du match. Mais ça, à la limite, t'as des grands numéro 9 qui, tu les vois pas, mais en gros, c'est parce qu'il n'y a pas forcément besoin de les voir, parce que les circuits de construction ne passent pas par eux, et tu sais qu'ils seront être là, dans la zone de vérité. Là, Suarez, en fait, tu le vois pas, mais parce qu'il est trouvé, comme l'Atlético récupère, quand ça récupère très bas, tu dois remonter 40-45 mètres, essayer de mener une transition ou autre. Et là, c'est très compliqué pour Suarez parce qu'il a plus du tout les qualités physiques pour faire ça. Je pense malheureusement qu'il ne les aura plus jamais. Et autant, si tu veux, tu peux continuer à perdre la bataille du milieu de terrain, continuer à relativement souffrir et te dire, bon, il y a 0-1, mais c'est pas la fin du monde. On reste quand même dans notre plan de jeu parce qu'on a confiance sur le fait de marquer un but, entre guillemets, sorti nulle part, comme ça aurait pu être le cas de Lemar. Donc tu renforces ton milieu de terrain, tu laisses un Joao Félix pour jouer des transitions. Autant sortir Félix pour laisser Suarez. Je voyais pas en fait dans quelle configuration de match le simple fait de faire rentrer Saoul t'aurait permis de retrouver cette maîtrise, de t'installer dans le camp adverse et du coup de trouver Luis Suarez dans la surface plutôt qu'au milieu de terrain. Donc c'est vrai que ça c'est assez étonnant. Et globalement, je pense que Simeone, alors sans vouloir lui faire de critiques, alors lui-même s'est remis en question sur son coaching, hein, même si parfois cette façade, mais là je pense que vraiment il a compris qu'il s'était un petit peu trompé. Donc je vais pas lui donner leçon de coaching, mais je pense que la présence de Luis Suarez peut quand même poser une forme de problème à l'Atlético, parce que c'est un joueur qui t'apporte beaucoup dans la surface quand il est en confiance, pas beaucoup dans les autres domaines, qui est quand même un certain ego, un certain palmarès, un certain nom, et du coup tu le gères pas aussi facilement qu'un pur finisseur qui serait pas du tout référencé. comme par exemple tu pourrais gérer un Jovic du côté du Real où bon, il est pas bon, tu le mets sur le banc. Donc je pense que Suarez est à la fois autant un problème qu'une solution, et en, le fait de pas avoir Diego Costa fait que bah si tu veux avoir ton truc point de fixation, en tout cas joueur de surface et attaquant plus fuyant, tu vas vite être amené à mettre ces deux joueurs là ensemble plutôt que Correa et Joao Félix. Et c'est embêtant parce que ce Suarez-là, sportivement, si t'enlèves son profil, ses accomplissements passés, c'est difficile quand même de justifier sa titularisation à ce niveau de compétition.
Merci Christophe pour ce petit point sur Real Atlético. J'étais en train de regarder quels étaient les prochains matchs pour ces deux équipes. Le Real va recevoir Bilbao et l'Atlético va recevoir Elche. Donc voilà, rien de terrifiant à l'approche pour ces deux équipes. Florent, on peut passer au troisième match qu'on va évoquer dans cet épisode, et peut-être le pire des trois, c'est celui entre les deux Manchester, qui a terminé à 0-0. Alors je n'ai pas vu ce match, et je me rends compte, en regardant l'affiche, que les deux coachs n'ont fait qu'un seul changement chacun. Martial a remplacé Greenwood, Ferran Torres a remplacé Riyad Mahrez. C'est quoi, il y avait pas de, les mecs étaient pas là pour ce match, c'était un match en trop, ça les embêtait de, c'est rare qu'à 0-0 comme ça, alors que les deux jouent les quatre premières places et un peu le titre, en tout cas pour l'instant on sait pas vraiment qui joue le titre en Angleterre, qu'il y ait si peu de choix, de changements pour finalement essayer d'aller chercher ce match-là, qui finit à 20 tirs en tout, avec un City qui a 54% de possession, donc rien de vraiment puissant, enfin je sais pas, si je regarde que les stats, je me dis c'est un match un peu hors du temps.
Ben, en fait, ce qui est frappant dans les derniers gros chocs de Première Ligue, très souvent, t'avais toujours des United-Chelsea qui étaient absolument horribles, par exemple, à voir, ou des Chelsea-Tottenham où il se passait rien. Il y en a eu un il y a quelques semaines maintenant, ou quelques jours, je ne sais plus, mais c'était il n'y a pas si longtemps, où ça avait fait un 0-0, il me semble. Ce Chelsea-Tottenham, les deux équipes s'étaient neutralisées pendant 90 minutes, c'était très dur à regarder. Et en fait, ce genre de match, ce genre de choc entre les grosses équipes de Première Ligue, ces dernières années, il y avait une équipe qui permettait d'y échapper, c'était Man City, parce qu'il se passait toujours quelque chose en fait. C'est-à-dire soit City écraser son adversaire et gagner, je sais pas, comme quand Guardiola met une volée, je crois, au Chelsea de Sarri, où il en mettre 4 ou 5 ans, je ne sais plus exactement. Et là, en fait, on est tombé sur un match où Man City a abordé, j'ai l'impression, cette rencontre, ce choc, entre guillemets, comme tous les autres chocs de Première Ligue, c'est-à-dire comme une équipe de Chelsea, comme une équipe de United, comme une équipe de Tottenham. Et du coup, il ne s'est rien passé pendant 90 minutes. Quasiment. D'un côté, t'avais United qui se livrait pas trop, mais de l'autre côté, en fait, City qui n'a plus forcément l'ADN qui faisait sa particularité et son charme sur les saisons précédentes. Là, on avait à nouveau ce 4-2-3-1 très tourné vers l'équilibre et surtout au-delà de ça, un manque à partir du moment où il n'y a plus le décalage collectif, un manque aussi de qualité individuelle, de joueurs simplement capables de faire des différences et de débloquer des situations qui sont fermées. Et du coup, au final, un match où il ne s'est pas passé grand-chose, même si City a quelques grosses occasions qui auraient pu lui permettre de l'emporter, mais globalement, dans la maîtrise d'ensemble et dans la créativité, on est très 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 loin de ce que City a pu proposer en Première Ligue il y a encore quelques mois.
Ça va dans le sens, Christophe, de ce City beaucoup moins flamboyant offensivement, et d'ailleurs ça se voit en termes d'expected goals. Alors sur ce match, ils sont à 1,28, donc ils dominent quand même Manchester United, mais sur l'ensemble de la saison, ils ont la sixième meilleure attaque du championnat. Ils sont derrière Liverpool, Chelsea, Everton, Leicester, Leeds. Alors ils ont un match en moins, mais ils vont pas non plus claquer 5 ou 6 XG sur le prochain match. En tout cas, ça serait pas dans le sens de leur saison. C'est un peu la banalisation de ce City cette saison, où c'est rare, j'ai l'impression que c'est la première fois que ça arrive avec Guardiola. Autant au Barça et au Bayern, il y avait toujours des particularités, des choses un peu différentes, des performances marquantes, même dans les saisons où le titre ne venait pas. Enfin, il y a eu une saison, c'est au Barça, la dernière, lorsque Mourinho est champion. Autant là, qu'est-ce qu'il y a de Guardiola dans cette équipe actuellement?
Pas grand chose, malheureusement, et c'est vrai qu'on est un peu obligé quand même de parler de ce match parce que c'est l'un des chocs du week-end, et puis parce qu'on l'a regardé aussi pour en parler, donc autant rentabiliser. Mais c'est vrai que je sais pas vraiment quoi dire qui n'ait pas déjà été dit. Ça rejoint de plus en plus ce que j'écrivais sur le fait que, en voulant équilibrer son équipe, Guardiola perd en capacité à déséquilibrer l'adversaire. Alors effectivement, il y a quand même quelques occasions qui permettent de gagner le match, mais elles sont pas le fruit du système, en fait. C'est soit des inspirations individuelles. Généralement, en gros, c'est De Bruyne, quoi. C'est-à-dire que si t'enlèves De Bruyne, cette équipe-là, je sais même pas si je vais être méchant ou pas, mais tu le remplaces, allez, par Jimmy Cabot, qu'on cite dans à peu près tous les épisodes. J'allais dire Fulgini, mais je pense que Fulgini pourrait quand même faire 2-3 trucs. Mais en gros, tu le remplaces par un bon milieu offensif de Ligue 1, mais voilà, un peu lambda. Je sais pas si City a beaucoup d'occasions sur ce match, en fait. Si tu remplaces un ou deux talents qui vont essayer de te débloquer les choses, qu'est-ce qui reste? Alors tu me diras, c'est pas la seule équipe du monde à faire ça, hein. Même en face, Manchester United, même la semaine dernière, hein, si t'enlèves Bruno Fernandes, il reste pas grand-chose. Enfin, c'est un peu variable, on va dire. Mais limite, avoir une ou deux sources de créativité forte, pourquoi pas? Et c'est dans les années 2000, chaque équipe avait son meneur et il y avait parfois pas grand-chose autour. Donc à la limite, de dépendre de De Bruyne, pourquoi pas? Le souci, c'est que c'est pas l'histoire et le sens de la carrière de Guardiola. Et je vois pas en fait ce que ça lui apporte. Bon, bah alors, il y a l'excuse, mais c'est un peu des trucs où tu cherches à rationaliser. Ça me fait un peu penser à ce qui était fait sur... alors désolé, c'est notre passage NBA, hein, mais sur le trade Chris Paul Westbrook, où en gros, c'était tellement improbable que tout le monde a dit ça peut pas être Daryl Morey, le general manager qui a fait ça, parce qu'il est trop intelligent, il ferait pas une bourse pareille. Donc c'est-à-dire le mec a atteint un tel crédit qu'en gros, même quand il y a une décision qui normalement dépend de lui, qui est faite mais qui semble totalement illogique, on dit non, on a dû lui imposer, c'est pas lui, il ferait pas un truc pareil.
Sachant que c'était pas vraiment lui d'ailleurs.
Oui. Mais je veux dire, quand t'arrives à un tel niveau que quand tu fais un truc qui est une erreur, on dit non, c'est pas toi, ça vient d'au-dessus, on t'a forcé, c'est quand même que t'as atteint un crédit qui est pas inépuisable mais pas loin. Et donc du coup, bah, pour Manchester City, on se dit, ah, Guardiola, il peut pas faire ça, il y a forcément une explication. Donc là, du coup, bon, tu cherches pas forcément le président qui lui imposerait de faire des choses spéciales, mais tu dis, ah, ça doit être pour la fête, c'est par exemple pour monter en puissance parce que le titre il l'a déjà gagné, il veut jouer la Ligue des Champions, donc du coup, ça sert à rien de presser comme un barbare maintenant. Un, tu restes quand même dans la course au titre, même si t'es pas leader, puisque tout le monde perd des points dans l'absolu, t'as pas encore grillé toutes tes cartouches, donc pourquoi pas, et puis tu préserves tes hommes, sauf qu'il y a toujours des contre-exemples. Là, le fait de faire un seul changement, je crois que c'est la semaine d'avant où il n'en fait aucun, alors le fait de militer pour 5 changements et d'en faire que un ou deux, à la limite, pourquoi pas, tu ne milites pas forcément toujours pour tes propres intérêts, et c'est bien d'avoir aussi la possibilité d'en faire 5 plus tard, mais c'est vrai que la gestion des corps s'oppose là au fait qu'il ne laisse tout le monde pendant 90 minutes sur le terrain. Donc en gros, là, la seule influence que tu vois là-dessus, c'est que Lilo 4-2-3-1, son entraîneur adjoint, et que du coup, il se laisserait convaincre, tenter par ça, pour apporter un certain équilibre. Et c'est vrai que Rodri, Fernandinho, bah du coup, Fernandinho couvre le fait que Rodri soit pas très mobile. Maintenant, Florent, qui n'aime pas du tout Rodri, confirmera que ce joueur-là n'apporte pas avec ballon, puisqu'il touche toujours 4 ou 5 fois avant de faire une passe, ce qui perd en mobilité. Donc du coup, à quoi ça sert de l'avoir lui? Pourquoi est-ce que t'as pas juste Fernandinho en milieu défensif et que tu rajoutes pas un attaquant ou un joueur offensif? Enfin voilà, il y a plein de nouvelles articulations et je comprends pas ce que fait Guardiola et je n'ai plus grand intérêt à voir des matchs comme ça. Si c'est pour faire ça, je préfère encore voir, je sais pas, il y a Brighton par exemple qui joue 10 fois mieux au foot que ce Manchester City là qui n'a aucune espèce d'intérêt.
City n'avait fait aucun changement contre Fulham lors du match précédent. Pendant 90 minutes.
Et moi, j'ai juste, pendant que Christophe parlait, je suis allé voir l'évolution saison par saison des expected goals pour et contre de City, parce qu'on pourrait se dire, bon, ben, ils ont peut-être ce que l'équilibre apporté, peut-être que City encaisse moins et City gagne quelque part, quoi. Et donc, je vais juste vous donner depuis 2016-2017. Donc qui est, il me semble, la première saison de Guardiola, quand il termine troisième du championnat. Je vais vous donner expected goals pour et contre. Donc, première saison, 2,10 expected goals pour, 0,78 contre. Deuxième saison, 2017-18, on est à 2,41, 0,65. Troisième saison, 2018-2019, on est à 2,47, 0,68. 2019-2020, la saison dernière, on est à 2,69. Donc là, il y a une... Offensivement, il y a une hausse, mais on est à 0,97 défensivement, donc il y a aussi une hausse. Et cette année, donc après 11 matchs de Premier League pour Manchester City, on passe de 2,69. Donc l'année dernière, on tombe à 1,75 en termes de production offensive et on est à 1,02 en termes de production défensive et d'expected goals concédés. Donc en gros, il n'y a même pas de progression sur le plan défensif. Et alors que City, par rapport aux autres équipes, dominait a quand même assez largement les expected goals sur les depuis que Guardiola est arrivé en Premier League, tout simplement, sur le plan offensif. Là, cette saison, City n'est que sixième, certes avec un match en moins. Donc, je pense qu'il serait, top 4 si on ajoute top 3. Mais pour l'instant, ils sont sixième derrière Liverpool, Everton, Leicester et Leeds, qui est juste devant eux. Donc voilà, il n'y a pas, au niveau des chiffres et des stats avancées, il n'y a pas non plus de preuves que ce qui est fait jusque-là apporte à City ou permet à City de progresser dans une zone en particulier.
À noter que quand tu dis ouais, il pourrait être top 3, alors oui, c'est bien en effet Flo, mais la comparaison avec les années précédentes est dingue parce que l'an dernier, ils finissent à 102 XG sur la saison.
Et avec une vingtaine d'avance. Ouais. C'est ça, ouais.
Avec même 26 XG d'avance sur le deuxième qui était Chelsea et 27 sur Liverpool qui était troisième, qui avait eu une grande réussite et qui avait marqué les buts qu'il fallait. C'est-à-dire que City mettait des 5-6-0. Sur des matchs qui étaient déjà un peu pliés, là où d'autres équipes ne le faisaient pas forcément.
Donc, ça revient sur ce que disait Christophe, sur le fait que ça devient une équipe banale et qu'il n'est plus forcément bien intéressant de la regarder, en tout cas en ce moment.
Et puis, ce qu'il faut dire quand même, c'est qu'il y avait déjà des blessés les saisons précédentes et que l'absence d'Aguero peut te pénaliser à la finition, moins sur des stats type XG, parce que les tirs que prend Aguero vont pouvoir être pris par Jesus, c'est pas, alors même s'il tire un peu moins, il a un peu moins cet instinct de finisseur. À partir du moment où les tirs sont pris au même endroit, bah, du coup, ces stats-là sont les mêmes. Donc, c'est vraiment un problème d'arriver dans des zones de finition pour tirer. Les joueurs de City sont pas mis subitement à faire des passes là où ils tiraient les années précédentes. Aguero a manqué des mois les années précédentes, De Bruyne a manqué des mois les différentes années précédentes. Enfin bref, il y a pas d'absence ou de problème physique. Enfin pour moi c'est vraiment un truc systémique qui fait que tu as moins de possession là et pendant des longues séquences ils ont abandonné la balle à Manchester sans que je comprenne exactement pourquoi. Parce que du coup ça t'offrait même pas de possibilité en transition. Tu pouvais même pas faire le truc comme ils ont fait un peu face au Real. Tenez, on vous la rend, on va vous presser. Où là, tu dis, bon, allez, on vous laisse la balle. Bon, après, c'était City là quand même, hein, mais d'habitude, c'était plus du 65-35 ou 60-40. Là, les phases où City laisse la balle, c'est même pas pour attendre en bloc médian et sortir sur des pressing traps, voire même un peu bloc bas et balancer en profondeur. Non, c'était, bah, tenez, on vous laisse la balle. Et puis pendant ce temps-là, on attend. Et comme Manchester United ne savait pas trop quoi en faire, bah, il se passait pas grand-chose. Donc, je pense qu'il faut vraiment dire que c'est pas... Enfin, pour moi, c'est tout sur le système. Alors, les individualités pour encore plus le transcender si tu avais un De Bruyne monstrueux, mais ils sont pas non plus mis dans les conditions d'avoir autant de munitions qu'auparavant. Donc, on voit plus le fait que tu ne réussis, je sais pas, ce que 60% de tes actions quand tu dois en jouer 5 que quand tu en joues 50. Donc, pour moi, c'est vraiment la question du volume qui est importante et de quelle est la direction qui souhaite être prise par cet entraîneur et par son adjoint dans en gros les objectifs que tu veux te donner, parce que là en plus ça me semble, comme le disait Flo, même pas être la voie à suivre pour remporter la Ligue des Champions ni le championnat.
Manchester City qui jouera contre West Brom et Southampton lors des deux prochains matchs. Alors autant West Brom à domicile, ça risque de finir à 2-3-4-0, autant le match à Southampton contre une équipe qui presse beaucoup et qui va agresser l'adversaire, ça peut être sympa.
Ça peut être sympa.
Ouais, Southampton qui est actuellement devant City d'ailleurs, je crois, au classement. Parce que Southampton est sur le podium ou pas loin.
Donc, je vais ils sont quatrième. Ouais.
Ah voilà, c'est ça. C'est la victoire de Leicester hier soir qui a permis aux Foxes de repasser devant. Mais c'est très serré en Premier League entre les 5 premiers. Il n'y a que 3 points d'écart. Voilà pour le point Manchester. On va passer aux joueurs à suivre. Christophe, tu as réclamé cette séquence. Et ben, on va commencer par toi et je vais te citer tes joueurs à suivre. Alors il y avait aussi des mentions, mais on n'aura pas forcément le temps de faire des mentions, on verra. Tes joueurs à suivre, tu avais Mateusz Cunha du Hertha Berlin, Florian Wirtz de Leverkusen, Vicente Esquerdo de Valence, Trincao du Barça, Meling de Nîmes, Valon Berisha à Reims, Kulusevski à la Juve, Osimhen à Naples, Ferran Torres à City et Rodrigo Moreno. Est-ce qu'il y a un de ces noms sur lesquels tu veux t'attarder plus qu'un autre? Peut-être Florian Wirtz qui a encore marqué.
Oui, alors déjà, corrigé, puisque je te l'avais dit en avant-podcast, ce qui s'est passé, ce que je craignais évidemment arriver, ce n'était pas Esquerdo qui était dans ma première liste, mais Carlos Soler, que je vais par qui je l'avais remplacé ensuite. Mais bon, ce n'est pas très important. Bah, en fait, pour moi, les deux plus intéressants de cette liste, même s'il n'y a pas de gros échecs, j'ai envie de dire. Enfin, t'as Melling qui est tout le temps blessé. Berisha, enfin, si t'en as quand même des échecs, mais pas, ouais, je sais pas. J'étais en train de me lancer des semi-fleurs, mais, enfin, de me semi-lancer des fleurs, je ne sais pas. Mais Melling est tout le temps blessé. Berisha, c'est pas fou. Et Trincao, c'est plus compliqué depuis quelques semaines. Donc là, c'est les trois où c'est un peu difficile. Maintenant, c'est vrai que je suis assez content. Alors, même si le but, c'était pas forcément d'annoncer des réussites, c'est en tout cas de suivre ce qu'il pouvait faire. Typiquement, Rodrigo à Leeds, le fait qu'il soit souvent intégré au milieu de terrain plutôt qu'en attaque, dans une espèce de rôle de numéro 8, numéro 10, assez étonnant. C'est à suivre parce que c'est intéressant et j'ai envie de voir l'évolution. Maintenant, c'est pas toujours fabuleux. Il faut toujours distinguer les deux, mais les joueurs qui vraiment sont en train d'exploser, alors t'as Mateus Cunha qui sur le plan statistique est assez énorme, d'ailleurs c'est là-dessus qu'on voit que l'algorithme WhoScored t'avantage bien quand t'es un peu bon partout, puisque hormis Lewandowski et Haaland, il est troisième à 7,79 et le quatrième du championnat est à 7,58. Donc vraiment Cunha, le fait de stater un peu partout, c'est intéressant. Alors le Hertha, quelquefois des moments décevants, mais notamment dans le jeu, je trouvais que Touzard, Darida qui court partout, Guendouzi qui peut t'apporter un peu de créativité dans le dernier tiers, Cunha, Luke Bakio, Piontek, enfin c'était un truc où t'avais vraiment les coureurs, les créateurs, les finisseurs, ça me semblait assez intéressant. J'ai regardé pas mal et c'est pas ça m'emballe assez peu, mais Cunha en 10 matchs disputés est quand même à 6 buts, 2 passes décisives, 1,8 passes clés par match, 3 dribbles réussis. Et il est aussi à 1,1 duel aérien gagné. Alors c'est pas là-dessus qu'on l'attend le plus, mais c'est par exemple plus que Erling. Donc Cunha 21 ans est vraiment en train de prendre une dimension supplémentaire et de s'affirmer comme l'homme à tout faire sur le plan offensif de cette équipe du Hertha en numéro 10. Et c'est vrai que Florian Wirtz, là je suis content parce que même si semaine après semaine forcément il a 17 ans, c'est pas toujours exceptionnel, il y a des moments où il est plus neutre, il est jamais vraiment je trouve mauvais, mais il y a parfois où dans un rôle, alors c'est un milieu polyvalent mais qui va plutôt être 8-10 dans le profil Kaya Wirtz, plutôt début de carrière sans ce côté faux numéro 9. Il y a des moments où ses passes seront un peu plus latérales, un peu plus neutres. N'empêche que toute compétition confondue, il a 3 buts, 5 passes décisives, que Leverkusen s'est qualifié très facilement en Ligue Europa et premier de Bundesliga. Cette super place dépend plus de Leon Bailey, par exemple, qui retrouve son super niveau, de joueurs comme ça, de Diaby qui poursuit sa montée en puissance avec ce côté preneur d'espace, etc. Mais d'avoir réussi à intégrer et de beaucoup se baser sur une espèce de meneur de jeu, créateur, en tout cas courroie de transmission de 17 ans, c'est très intéressant à la fois pour le club, parce que tu peux estimer qu'il risque de continuer à progresser, donc du coup ton jeu ne va faire que s'améliorer, et pour lui, parce qu'être capable d'assumer ses responsabilités à cet âge-là, quand on est né en mai 2003 et qu'on n'avait pas joué un match pro il y a 6-7 mois, c'est très très intéressant. Donc vraiment c'est parmi tous les joueurs à suivre. Alors il y en a d'autres qui pourraient être intéressants, type Osimhen, etc., qui apportent des choses. Mais pour moi, c'est Wirtz, c'est celui que j'ai le plus envie de suivre parce qu'il y a tellement d'incertitudes sur son profil et sur ce qu'il peut faire dans les années à venir que je suis content de le voir maintenant parce que peut-être que ça sera le meilleur du monde à son poste dans 2-3 ans.
Florent, à toi pour ta liste. Je te cite tes joueurs également. Tu avais Wang de Leipzig, Hannes Wolf de Gladbach, David Silva de la Real Sociedad, évidemment, Estupinan de Villarreal, Arnaud Nordin, Saint-Etienne, Seko Fofana, Lens, Sandro Tonali à l'AC Milan, Zappa Costa au Genoa.
Non, mais Spinazzola.
C'était Spinazzola, incroyable. Spinazzola, donc, de la Roma. Je corrige.
Ouais.
James à Everton et Sergio Reguilón à Tottenham. Sur qui veux-tu t'arrêter ?
À vrai dire, j'ai pas pu voir grand monde parce que j'ai beaucoup de choses à faire en ce moment et malheureusement, j'ai pas forcément pu prendre autant de nouvelles de ces joueurs-là que Christophe a pu le faire avec Wirtz notamment. J'ai quand même regardé un petit peu qui faisait quoi, etc. Un peu déçu pour Nordin qui avait bien débuté la saison avec en faisant 3 passes décisives assez rapidement et qui s'est pété, je crois, au début de l'automne. et qui du coup a raté 4 matchs et revient à peine. Je crois qu'il a fait des entrées en jeu. Je me demande si son match contre Angers ce week-end n'était pas sa première titularisation. Donc à voir ce que ça va donner quand il va reprendre le rythme et ce qu'il peut permettre à Saint-Etienne de se relever, de regagner un match maintenant qu'ils enchaînent les matchs nuls après avoir enchaîné les défaites. J'ai aperçu Seko Fofana dans le match face à Montpellier, mais lui aussi, c'est un joueur qui revient de blessure petit à petit. Il n'a joué que 33% des minutes de jeu disponibles cette saison avec Lens, donc voilà, ça redémarre petit à petit. Et ensuite, c'est vrai que les autres, j'ai franchement pas eu le temps d'aller les voir. Je suis assez content de voir que Spinazzola enchaîne les matchs à la Roma, et la Roma est très performante cette saison. Il faudrait que je m'intéresse un peu plus à elle, parce que
avec de l'autre côté, l'oublié mais ressuscité Karsdorp.
Oui, qui était dans nos mentions d'ailleurs, il me semble, de joueurs à suivre et de relance possible.
Oui, c'est vrai.
Mais, 4 passes D déjà pour Spinazzola, ce qui est pas mal pour un latéral et ce qui est attendu de sa part de toute façon depuis le début de saison. Et puis ensuite,
Écoute, Tonali, ça se passe bien.
Débute pas trop, ça démarre doucement, Tonali.
Oui, ça se passe bien pour le Milan en tout cas.
Collectivement, ça se passe bien.
Reguilón est très bon à Tottenham dans un projet de jeu complètement différent de Séville.
Reguilón s'en sort très bien. Ouais, Wang manque peut-être un petit peu à Leipzig parce qu'il me semble qu'il est beaucoup blessé depuis le début de saison. Il a quasiment pas joué. Christophe confirmera ou pas.
Absolument.
Mais j'ai l'impression.
David Silva s'éclate aussi.
Ouais, en plus, il est un peu protégé parce que j'ai l'impression qu'il peut se reposer assez régulièrement. Il a joué que 60% du temps de jeu disponible. Et puis Hannes Wolf pour l'instant reste un joueur de banc pour Gladbach qui fait des entrées en jeu, qui a marqué, il a déjà marqué 2 buts, mais bon, 500 minutes de temps de jeu, ça reste assez faible, mais bon, on est sur un joueur à la relance de toute façon, donc ça va peut-être venir petit à petit, mais c'est pas encore son heure quoi.
Très bien, ben, Hannes Wolf, on le verra peut-être en Ligue des Champions, ça me permet de faire une
transition
parfaite pour évoquer le tirage au sort qui a donné au PSG le Barça. Comme je le disais tout à l'heure, alors là, bon, c'est une énième redite d'un match qu'on a bouffé à nombreuses reprises depuis quelques années. Il y a eu des matchs de poule, il y a eu deux fois, je crois, des matchs en éliminatoire, puisqu'il y a eu Ancelotti, il y a eu le passage avec Emery, évidemment. Je sais pas s'il y en a un autre que j'oublie, peut-être. Un 3-1 où Neymar met un but au PSG. Oui, avec Luis Suarez qui met un doublé au Parc des Princes. Des choses comme ça. Donc, ils n'arrêtent pas de se jouer. Christophe, je reviens avec toi, mais c'est peut-être le PSG-Barça le plus faible des années, depuis que le PSG a été racheté. Parce que là, les deux équipes sont concrètement assez moyennes collectivement. Et en plus, Neymar pourrait être absent. Messi commence à vieillir et en a marre du Barça. Il y avait une petite fraîcheur au début et c'était sympa parce que c'était deux équipes qui jouaient bien. Là, pour le coup, c'est sur le papier un gros huitième, mais je suis pas sûr que ce sera le plus intéressant en termes de jeu.
Non, je pense que ça sera même l'un des moins intéressants. Il y avait, une grosse incertitude parce que d'une semaine sur l'autre. On va dire que le Barça peut exploser défensivement. Le PSG, pour moi, c'est plus dans la production offensive que ça varie. Donc, c'est-à-dire les mauvais jours, Paris ne va pas se créer grand-chose, mais pas forcément subir des vagues. Alors que à l'inverse, les mauvais jours, le Barça peut en prendre 3 ou 4, ou en tout cas se mettre en position d'en prendre 3 ou 4. Donc là-dessus, c'est même pas deux équipes qui ont exactement les mêmes faiblesses, où tu te dis, si les deux sont dans un mauvais jour défensif, ça peut partir à 5-5, ça n'aura aucune espèce de sens, mais au moins on va s'amuser. Là, je trouve qu'il y a pas mal de scénarios envisagés où en fait il se passe pas énormément de choses, où c'est assez fermé, assez bloqué. Alors le pire, c'est que les deux entraîneurs sont pour moi quand même de bons tacticiens, malgré les soucis. Tuchel a quand même prouvé des choses sur des systèmes ponctuels ou alors sur des philosophies de jeu plus durables. Alors là, c'était plutôt dans la première partie de sa carrière. Et Koeman cherche encore le meilleur moyen d'installer son 4-2-3-1. Maintenant, même s'il y a eu 2-3 échecs, ce qu'il a pu faire en première ligue ou avec la sélection me semblait assez intéressant. Mais oui, ne serait-ce que la lecture des effectifs et de la forme des différents joueurs. En gros, si tu prends le 6, 7, 8e meilleur joueur de chaque équipe, c'est extrêmement loin de ce qui était le cas il y a quelques années. Et on pourrait même argumenter que le 8e meilleur joueur du Barça n'est pas forcément meilleur que le 8e joueur, je sais pas, de l'Atlético, de Leipzig, de la Juve. Enfin voilà. Donc moi, ce match-là m'intéresse pas. Je vais le regarder quand même pour pouvoir en parler dans le podcast. mais enfin il m'intéresse pas, il m'intéresse plus qu'un, je sais pas, qu'un Sedan contre ici les Moulineaux, hein, mais je, ouais, comme ça je vois pas trop l'affrontement de style. Bon, ah, le retour de Neymar, super s'il est apte, mais bon, c'est toujours un peu les mêmes histoires en fait.
Ça t'intéresse plus même qu'un Sedan avec Marcus Mokake?
Ouais, mais Marcus joue plus. Alors après, si tu me dis le grand Sedan du grand Marcus, là, effectivement, je vais regarder. Mais bon,
s'il y a Pius, Marcus, Stéphane Noro, Cédric Mionnet, c'est quand même quelque chose. C'est pas n'importe quoi, ce Sedan-là. Florent, t'avais
surtout
un truc.
Surtout si c'est Cédric Mionnet, parce que Stéphane Mionnet. Bon,
j'ai dit Stéphane.
Non, t'as dit Stéphane Noro et Cédric Mionnet. Ouais.
En fait, c'est okay, mauvaise langue. Pour ta dernière apparition 2020, t'es même méchant, Christophe.
Non, tu fourvoyais, donc j'ai mis un CSC, pas de souci. Je fais comme au Black, je baisse la tête et je ramasse le ballon au fond des filets.
Bon, y a quelqu'un qui a sonné chez moi, sans doute quelqu'un qui est très énervé parce que c'est un fan de Cédric Mionnet, ou un fan de Marcus Mokake, ou un Parisien du Sedan PSG du 5-1. Florent, j'ai l'impression que tu avais un truc plus intéressant à dire.
Non, c'était juste... je pense que les journaux espagnols vont s'en donner à cœur joie pendant 3 mois, ça va être très long d'ici le match. Après, par rapport à ce que les deux équipes ont montré jusque-là, depuis le début de saison, bon, déjà c'est dans 3 mois, donc c'est long, mais je pense qu'il y aura plus de storytelling autour du match que sur ce qui va se passer sur le terrain, quoi. Après, aujourd'hui, tu me dis aujourd'hui qui va gagner ce match, c'est un petit peu un combat déclopé. On serait tombé sur ce Barça PSG avec. Il y a 2 ans, où avec tout le monde à 100%, t'avais une potentielle peut-être demi-finale de Ligue des Champions. Là, c'est un 8e et c'est pas déconnant que ce soit un 8e de finale en fait. Voilà, j'ai pas grand-chose à ajouter à part ça.
Ça me dérange pas. Je vais pouvoir citer les autres matchs. Gladbach contre City. Alors les premiers de groupe sont cités en première chaque fois. Les deuxièmes de groupe, pardon. Lazio contre Bayern, Atlético de Chelsea, Leipzig, Liverpool, Porto, Juve, Barça, Paris, donc Séville, Dortmund et Atalanta, Real Madrid. Christophe, un choix parmi ces rencontres. Alors, le Lazio-Bayern m'intéresse, mais je crois pas du tout à la Lazio, par exemple. Pas sur ce match, en tout cas, ça me paraît trop fort pour eux. Atlético de Chelsea, non. Enfin, pas du tout, de prime abord. Mais bon, après, pourquoi pas si Chelsea arrive à en faire quelque chose. Leipzig-Liverpool, oui, évidemment, même si on commence à bien connaître les deux équipes. Porto-Juve, bon, je pense que ça va être comme Lazio-Bayern, ça va être un peu trop déséquilibré. Séville-Dortmund, pourquoi pas, à voir qui commencera Dortmund dans 2 mois. Et puis, évidemment, Atalanta-Real Madrid.
Alors, je vais te improviser une séquence. Je vais te donner mon niveau d'intérêt sur 10 à la lecture de ces affiches. Oh là là. C'est parti. Atalanta Real 7. Je pense qu'il y a quand même un écart dans la maîtrise. Maintenant, j'ai envie de voir quand même ce que peut faire le Real face à une équipe qui va faire du marquage individuel et qui peut avoir la création. Mais il y a le problème Papu Gomez. Pas sûr qu'il soit encore là d'ici le match et qu'il ne s'en aille pas en janvier. Et deuxièmement, je peur que le marquage individuel explose. En fait, j'ai envie de le voir, mais ça peut mal se passer. Atlético Chelsea 2. Deux équipes qui, je pense, vont rester assez prudentes. Chelsea dépend beaucoup de ses individualités. J'ai peur que ça fasse 0-0, 1-0 retour, quelque chose comme ça. Barcelone PSG 3. On en a parlé. Gladbach City. Je dirais 5 quand même parce que Gladbach m'intéresse et j'ai envie de voir ce que City va faire face au pressing adverse, 5-6.
Dans les 5, il y a combien de points pour Gladbach ?
Alors, il y en a 4 pour Gladbach et 1 parce que City doit normalement être emmené sur un terrain où ça va les forcer à faire du jeu. C'est-à-dire que là où Manchester United les tire un peu vers le bas, genre bon, on fait rien, vous faites quelque chose ou pas, là, Gladbach, logiquement, va faire une proposition à laquelle City va pas pouvoir rester insensible. Il va falloir ne pas hésiter à relancer sous pression si Gladbach va chercher très haut. Alors j'imagine que ça sera le cas, que Gladbach ne va pas trop attendre, même si c'est toujours possible. Hein. Mais je pense quand même qu'il y aura, soit sur le plan stylistique, soit au moins sur le plan de la composition, des intentions, j'imagine quand même que ça sera pas neutre. Alors, après, on va voir comment ça va se passer. Lazio-Bayern 6, parce que je pense que la Lazio a quand même les moyens d'attaquer la profondeur du Bayern. En gros, la capacité à contrer de l'un va assez bien avec les faiblesses du Bayern qui défend quand même très très haut et qui peut laisser des espaces. Je pense que le Bayern, même dans un truc où ça fait but à but, va se qualifier et supérieur, notamment dans les deux surfaces. Mais je pense que ça peut beaucoup courir et être assez sympa. Leipzig-Liverpool 9. Parce que je regarde tout le temps Leipzig et je suis toujours très content de regarder cette équipe de Leipzig. Et Liverpool est peut-être, hors blessure, la meilleure équipe d'Europe. Donc du coup, je pense qu'en plus, vrai duel de coach.
le hors blessure est une hypothèse assez puissante en ce moment côté Liverpool, parce que Matip est sorti blessé et que le Liverpool a fini match avec Fabinho Henderson contre Fulham en défense centrale.
Oui, mais alors toi ça ne t'arrange pas, je vais pas dire que moi ça m'arrange non plus, mais disons ça limite un petit peu les forces de Liverpool, ça réduit l'écart entre les deux équipes, c'est-à-dire que là les 11 n'auront peut-être pas tant d'écart que ça sur le plan individuel, et ça peut rendre le match encore plus intéressant si le fait que Leipzig ait parfois du mal à conclure, bon, ça risque d'être un petit peu facilité si tu vas plus facilement dans des bonnes positions de tir, parce que la défense centrale en face est un peu plus légère, c'est-à-dire face à Van Dijk et Gomez, voire Matip, des gens comme ça, je me dirais que mon Leipzig aurait beaucoup de beaux jeux, mais au final serait stoppé juste avant d'arriver dans la surface, donc ça serait embêtant. Donc c'est pour ça que j'ai envie de... Ça m'intéresse presque plus, parce que du coup, je donne plus de chance à Leipzig. Porto-Juventus 1, ça m'intéresse absolument pas, même si Pirlo essaye de trouver un truc, et que j'aime bien voir Kulusevski notamment, et que Dybala est toujours un super joueur. Là, comme ça, ça me branche pas du tout, et j'ai toujours du mal à m'intéresser à Porto. Et Séville-Dortmund, je dirais 4, je sais pas, je suis assez peu hypé par Séville encore ce week-end, ils ont fait tourner la balle sans trop savoir quoi en faire. Dortmund, c'est très incertain. Je sais pas quoi penser en fait de ce que va faire leur nouveau coach. Donc ça peut très bien être super prenant, et un bon Dortmund te ferait un super match, mais ne serait-ce que la saison dernière, je regarde l'aller le retour face à Paris, c'est pas du tout la même équipe. Donc je ne sais pas, voir si Haaland sera là, tout ça. J'imagine que oui, logiquement il revient en janvier, mais bon, vraie incertitude, mais j'ai peur que Séville tue un peu le rythme du match en faisant tourner, et que ça soit un peu lancinant et qu'il se passe pas énormément de choses, donc à voir.
Alors, est-ce qu'on connaît les dates déjà des matchs ou pas du tout ? C'est ça qui m'intéresserait, pour savoir.
C'est le 14-15, non ?
Ouais, c'est courant février à chaque
mais
fois.
Mais est-ce qu'on sait quel huitième se joue quand ? Parce que par exemple, s'il y a confrontation entre... Enfin, si Atalanta, Real et Barça-Paris se jouent le même soir, c'est emmerdant, par exemple, tu vois. C'est ça que je... Mais ça, je sais pas si c'est déjà sorti, ces dates-là. Donc, je suis sur UEFA.com, je suis perdu, je suis vieux, je suis un boomer, j'arrive pas à trouver... Il n'y a pas les dates.
C'est peut-être pas sorti encore, hein, en fait.
Ouais, ça doit être ça. En tout cas, c'est
parce qu'il y a les télés qui vont devoir décider.
Oui, je pense que
c'est. Non, pas le même soir que moi. Enfin, le met pas le même soir que ce match, etc., etc. Donc, je pense que c'est pas réglé. Et ça m'étonnerait, de toute façon, vu les télévisions, que Barça-Paris et Atalanta-Real soient le même soir, parce que les télés espagnoles vont pas le vouloir.
C'est vrai. Moi, ce serait une bonne chose pour nous.
Ce serait une bonne chose pour nous, en effet, aussi.
Et puis, il y a aussi le Liverpool-Leipzig qui sera particulièrement intéressant. Voilà pour le tirage au sort de la Ligue des Champions.
Moi, je dis rien. Donc,
ah, pardon, ouais. Florent. Bah non, mais il avait fait tous les matchs, donc le gars est clair. Mais vas-y, choisis. Crée ta séquence, comme disait Christophe.
Non, mais du coup, je vais faire ça assez rapidement. Juste pour dire que, je reste quand même assez déçu du relatif déséquilibre qu'il y a dans la plupart des rencontres, à part Barça-Paris, Atlético-Chelsea et Séville-Dortmund, il y a quand même un vrai gap, en tout cas en termes d'effectifs, entre les deux équipes qui s'affrontent à chaque fois. Maintenant, comme vous le disiez, notamment pour Liverpool, le cas des blessures, ça peut vraiment équilibrer l'affrontement face à Leipzig, même si bon, c'est pas où les deux équipes en seront dans 3 mois. Très curieux aussi de ce que peut faire la Lazio pour gêner le Bayern. Elle risque d'être un peu courte pour passer sur 2 matchs. Néanmoins, je me dis qu'elle peut donner beaucoup d'idées aux futurs adversaires du Bayern par sa capacité à contrer son organisation, etc. Je ne serais pas surpris que en quart de finale, le Bayern tombe sur une équipe un peu plus forte que la Lazio, mais qui reprend dans les grandes lignes ce qu'elle aura proposé sur cette confrontation-là. Et en guise de qui peut faire un upset, je sais pas vous, je pense que l'upset le plus possible là, ça me paraît Gladbach. Mais bon, là on parle à 3 mois des matchs, donc peut-être que City sera totalement différent dans 3 mois. Mais à l'instant où on parle, je pense que c'est dans ce match-là qu'on peut avoir la surprise de ces huitièmes.
Oui, sans doute. Même si Leipzig,
Après, est-ce que c'est vraiment complètement une surprise ?
Ouais, voilà, c'est ça.
S'il y avait une vraie surprise, ce serait genre que Porto sorte la Juve ou que l'Atalanta sorte le Real. Ça, bon, après, il y a Lazio Bayern, évidemment, parce que Bayern est un effectif inouï et je pense que Lewandowski peut écraser la défense centrale de la Lazio. Mais le Atalanta-Real, ce serait que s'il n'y a pas Pop ou Gomez et que l'Atalanta arrive à sortir le Real quand même, vu ce que fait le Real depuis quelques semaines, ce serait miraculeux. Puis il y a le Séville Dortmund qui est impossible à juger, comme disait Christophe. Parce que Séville était très bon contre Rennes et depuis, ils font que des matchs moyens.
Et Dortmund... C'est une très belle finale de Ligue Europa, hein, ouais. Séville Dortmund.
Et Dortmund, on ne sait pas, ça se trouve, le coach va être génial et l'équipe va être ultra moderne et Haaland va revenir et marquer 2 buts par match. Mais pareil, trop d'inconnus. Et, de toute façon, il y a peu d'équipes sur lesquelles on a beaucoup de certitudes cette saison, vu le contexte. Les gros ne sont pas forcément ceux qui ont les projets de jeu les plus définis. Parce que là,
Et si, juste une petite parenthèse sur le 1 sur 10 de Christophe. Non, c'était Porto-Juve. Je ne sais plus combien tu avais mis sur Atlético-Chelsea.
J'avais dû être vers les deux. Enfin, honnêtement, l'Atlético en 8e, c'est souvent une purge. Et je ne vois pas de Chelsea capable, ayant envie de sortir de cette idée assez calme.
Bah, c'est ce que j'allais dire. En fait, Chelsea face à l'Atlético, Chelsea propose tellement peu collectivement et n'a pas l'air d'avoir énormément d'idées, alors que pour moi, pour bouger un bloc comme en première ligue déjà, alors que pour bouger un bloc quand même défensif comme celui de l'Atlético, celui qu'on voit dans les gros matchs qu'on a évoqué tout à l'heure, que ce soit en 5-3-2 ou en 4-4-2, selon le schéma choisi par Simeone, mais en gros, pour bouger ce bloc-là, faut quand même des idées, et j'ai pas l'impression que Chelsea en ait énormément et en démontre énormément jusque-là, des idées collectives, des circuits. Autrement que, on va passer par Kai Havertz et puis il va faire quelque chose, ou on va passer par Werner et il va faire quelque chose.
Ou Ziyech.
Ou Ziyech, ouais, c'est vrai. Donc, du coup, assez curieux, alors pas enthousiasmé, mais curieux de voir si Chelsea va trouver des choses à faire d'ici là pour affronter l'Atlético, et au moins débarquer avec 2-3 idées collectives quand même pour déplacer ce bloc, parce que sinon, ça risque d'être en effet un match très très compliqué.
Ça rend une équipe d'association. Ça combine entre joueurs et tu laisses les joueurs assez libres, mais la structure elle est surtout sur le plan défensif. Alors tu gagnes globalement les matchs que tu dois gagner parce que tes individualités vont finir par faire la différence, mais dès qu'en face type Tottenham qui défend bien et qui a des joueurs de talent dans cette zone là, il y a tout de suite beaucoup moins de création. Donc ouais.
Après ça peut aussi être un match de centre où Giroud claque un doublé et c'est réglé. Pour construire un peu plus sa légende sur cette saison qui, j'ai l'impression, le réhabilite comme s'il avait besoin d'être réhabilité. Voilà pour ça. Alors, j'imagine qu'il y a le tirage de Ligue Europa qui se dispute en ce moment, peut-être un peu plus tard. Donc on verra si on a peut-être le temps de dire un mot rapide, mais on va d'abord passer au pari avec notre partenaire PMU.fr.
PMU vous présente la séquence prono.
Les paris avec PMU.fr, et puisque j'ai été méchant avec toi, Florent, en oubliant de te solliciter sur le tirage au sort, je vais te laisser la parole en premier. En plus, tu as été gentil, tu as donné tes paris sur la conversation il y a quelques minutes, un pari Ligue 1 et un pari Première Ligue. Commençons par le pari Ligue 1, parce que c'est celui-là sur lequel tu as des arguments, tu me dis, et puis tu improviseras sur le suivant, pari Ligue 1 sur Lens Monaco.
Oui, j'ai aussi signalé que je me suis fait troller par Thomas Bazic après son...
oui.
Après son but face à Lille. Néanmoins, j'avais évoqué la cote en disant que je préférais la cote de Ben Arfa 6,50. Bon, c'est Bazic qui marque. La cote était à 5,20, donc ça reste une cote très intéressante.
Et on a vu qui était méchant sur Twitter, parce qu'on a eu quelques mentions.
Non, mais c'était normal les mentions là,
oui,
mais
c'était mérité.
Mais je regrette quand même que ce soit pas Ben Arfa qui ait mis son but, puisqu'il a eu une occasion, je crois, 15-20 minutes plus tôt en début de partie. Où il peut donner l'avantage à Bordeaux et sa frappe croisée du gauche n'est pas assez forte. Bref, passons à Monaco-Lens. C'est un des jolis matchs quand même qui nous attendent mercredi, parce que je crois qu'en semaine on va être servi un peu partout. Il y a un Juve-Atalanta, il me semble aussi en Serie A. Bref, il y a du foot aussi cette semaine.
Tottenham-Liverpool, enfin Liverpool-Tottenham en première ligue.
Aussi, bon, la totale, on va pas savoir où donner de la tête. Bref, Monaco-Lens. Alors j'ai vu Monaco face à Marseille, j'ai vu Monaco face à Lille. Et à chaque fois, j'ai remarqué quelque chose, c'est face à Marseille, on a vu une équipe de Monaco en difficulté dès lors qu'elle était pressée, dès lors qu'on allait la chercher dans ses 30 mètres. Marseille marque ses 2 buts sur 2 ballons récupérés très haut en tout début de partie. Donc ça, c'est un premier point où Lens peut appuyer, parce que Lens est une équipe qui est capable d'aller presser et de jouer très haut. Donc ça, c'est un premier argument. Le deuxième argument, c'est que Monaco me semble être une équipe qui n'a qu'une vitesse. C'est-à-dire que c'est une équipe qui va construire, qui va bien utiliser la largeur du terrain, qui va sortir la balle à droite, qui va renverser à gauche, qui va créer un décalage, qui va essayer de rentrer dans la surface. Mais c'est très monorythme et face à des adversaires qui peuvent prendre des risques, c'est une équipe qui, je pense, a du mal à tout simplement à contrer, à contre-attaquer, parce que ça manque de vitesse.
Sofiane Diop est un merveilleux joueur de première touche, un merveilleux joueur dans les petits espaces. Par contre, quand il faut forcément pousser la balle sur 20-30 mètres pour mener un contre, forcément, il manque un petit peu de puissance, il manque un petit peu de vitesse, au-delà des premiers appuis sur lesquels il est capable de faire des différences. Donc, et c'est un exemple, mais c'est aussi le cas pour Folland, c'est aussi le cas pour Ben Yedder, c'est pas des joueurs de longues transitions. Et face à Lens, qui est une équipe qui aime bien créer, qui aime bien prendre des risques avec le ballon et qui peut parfois se déséquilibrer, ne pas être forcément très dangereux en transition, comme Lille avait pu l'être face à Lens et avait fait exploser Lens d'ailleurs 4-0. Je me dis que c'est un point fort qui va manquer à la SM. Tout ça pour aller vers le pari un petit peu audacieux. C'est la victoire de Lens. Alors, pas, l'audace n'est pas totale, c'est remboursé si égalité, donc c'est à 3,15 le pari. Je crois que la victoire sèche de Lens est à 4. Donc voilà, l'idée c'est de partir sur une victoire de Lens à Monaco pour ces raisons-là, c'est-à-dire la capacité de Lens à presser, donc à mettre en difficulté Monaco dans une zone où ils ont perdu des ballons récemment. Et la deuxième chose, c'est l'incapacité peut-être de Monaco à se sortir de ce pressing lensois, si les lensois vont chercher haut, évidemment, parce qu'ils vont pas forcément avoir la vitesse pour ensuite punir un décalage qui se serait créé plus tôt sur le terrain. Voilà.
C'était extrêmement bien argumenté pour un pari, moi, je dois reconnaître. D'habitude, on a tendance à, non pas à bullshiter un peu, hein, mais à trouver des trucs tirés par les cheveux, à chercher des explications. Et là, je te refile ta patate chaude, Arsenal-Southampton.
Je voulais juste finir en donnant d'autres cotes sur ce Monaco-Lens.
Ce qui serait d'un pari de flow sans qu'il y ait 8 cotes.
C'est ça, c'est les buts de Sotoka ou Kalimuendo, puisque ce sont les deux attaquants. Alors, il y a Ganago aussi qui est à 4,40, je crois. Mais ces deux-là sont à 4,20 et 4,40. Et je me dis que, puisque je pense que Lens va marquer, autant jouer un des deux attaquants, voire les deux, hein, si vous êtes très joueur en même temps. Si vous jouez les deux et qu'il y en a un des deux qui y passe, vous y retrouvez largement.
Très bien. Merci Florent. Tu vas donner combien de cotes sur Southampton Arsenal à peu près, ou Arsenal Southampton?
Je ne sais plus. Moi, j'en ai qu'une.
Très bien, tu n'en as qu'une. Ben vas-y. Arsenal Southampton, je crois que c'est ça. Je suis même pas sûr. Entre deux équipes qui vivent des saisons contrastées, disons.
Contrastées, disons, oui, en effet. Arsenal qui reste sur trois défaites d'affilée, il me semble, en championnat face à Wolverhampton, face à Tottenham et face à Burnley. Défaite 2-1 contre les Wolves à la maison, défaite 1-0 à la maison contre Burnley, défaite 2-0 à Tottenham à l'extérieur, oui, bien sûr. Et donc là, ils retrouvent Everton qui marche très bien, qui est en belle surperf, hein, sur le plan offensif, puisque en XG, qu'ils n'en ont qu'une quinzaine, alors qu'ils ont mis 25 buts cette saison. Mais du coup, Southampton, équipe en pleine confiance, qui tourne assez fort, et qui du coup va aller gagner à Arsenal, puisque c'est quand même le chemin que ça semble prendre. Ce qui est intéressant avec les Wolves, c'est qu'ils ont quand même pris les points, à l'exception les Saints, à part leur défaite lors de la première journée face à Palace. En gros, ils ont battu les équipes qu'ils devaient battre, certes parfois avec de la réussite, mais tu vois, les seuls points qu'ils ont perdus depuis le début de la saison, à part la défaite face à Palace, c'est une deuxième défaite face à Tottenham dans la foulée. Et après, ils font un nul contre Chelsea, un nul contre Wolverhampton, une défaite contre United alors qu'ils menaient 2-0 et ils perdent 3-2. Mais au-delà de ça, on a que des victoires contre des Everton, des West Brom, des Burnley, des Aston Villa, Newcastle, Brighton, Sheffield. Et du coup, vu ce qu'a montré Arsenal depuis le début de saison, j'ai l'impression qu'Everton, fort avec les faibles, sera aussi capable d'être fort face à Arsenal. Malheureusement, aux grandes dames de tous les supporters des Gunners qui nous écoutent, même s'il y a peut-être un espoir pour eux, c'est la suspension de Granit Xhaka.
Oui, qui après.
Et du coup, oui, la cote, oui. Victoire de Southampton, c'est coté à 3.
Voilà. 3. Merci Florent. Peut-être un des derniers matchs d'Arteta. Pour qui ça se passe pas très bien non plus, même si c'est pas le seul problème d'Arsenal. Christophe, à ton tour pour tes paris, que de manière très professionnelle tu as envoyé la veille, et c'est vraiment ce qui fait ta qualité. Un pari Premier League aussi, je te laisse commencer par lui, c'est sur Liverpool-Tottenham.
Ah, je l'avais pas envie, mais du coup je vais le faire. Déjà, signaler que je suis très triste, parce que dès l'annonce, dès ma réflexion sur les paris du dernier épisode, j'avais une seule cote en tête, un seul pari en tête. C'était le but de Thomas Souček face à Leeds, puisque l'un des meilleurs joueurs de tête au monde face à l'équipe qui prend le plus de buts sur corner avec Toulouse. Donc je me suis dit, c'est donné. Sauf que la cote n'était pas assez intéressante, du coup je suis parti sur autre chose, évidemment, Souček a marqué. Donc même si j'ai rentré un pari à la 95e sur le but pris par Schalke, je suis encore très triste. Et du coup, je vais arrêter de ne pas suivre mes idées juste en espérant que les cotes soient plus élevées.
Est-ce que Salif Sané était de ton pari? Est-ce qu'il avait un billet dessus? Parce que pour ceux qui n'ont pas vu le but encaissé de Schalke à la dernière minute qui les prive d'une première victoire, c'est scandaleux. T'as l'impression que les mecs ont déjà perdu 4-0, ils ont l'attitude d'une équipe qui a déjà perdu alors qu'ils doivent gagner leur premier match.
Oui, et qui sont en supériorité numérique depuis une demi-heure. Oui, non, mais ça fait partie du grand délire qu'est la défense de Schalke, avec également ton ami Kabak. Alors, mon premier pari, Liverpool-Tottenham. Quel joueur marquera au moins un but? Ma réponse est Harry Kane, et c'est à 2,70. Ce qui me semble être l'inverse de la cote que je n'ai pas prise la semaine dernière. À savoir que Harry Kane qui marque un but, s'il en a 9 en 12 matchs, plus une pelletée de passes décisives, donc là ça ne compterait pas. Mais c'est sûr qu'on peut aussi argumenter le fait que Son serait en mesure de marquer. Je crois que sa cote lui était à 3,40, quelque chose comme ça. Et effectivement, j'ai hésité entre les deux. Maintenant, le 0,70 ne m'a pas donné envie de switcher et de quitter Kane, parce que D2, c'est quand même lui le meilleur finisseur. Pas énormément de choses à dire, au-delà des statistiques, voilà, c'est vraiment ce duo-là qui permet à Tottenham d'être l'une des équipes les plus en forme d'Europe et les plus efficaces offensivement, même si 24 buts en 12 matchs, voilà, c'est pas non plus la folie furieuse, mais vu le nombre d'incursions dans le camp adverse, ils ont quand même un taux de réussite assez énorme. Donc voilà, Harry Kane qui est toujours un joueur qui met ses 25-30 buts par saison en première ligue, qui n'a pas joué autant de matchs en championnat que certains joueurs étrangers qui sont déjà 13-14, mais où il y a plus de journées. Voilà, les Harry Kane qui marque face à Liverpool qui en plus n'a pas une défense folle. Vous avez réussi, Raphaël, à prendre un but face à Fulham, et vous auriez pu en prendre d'autres. Donc rien que ça, je me dis que si Lookman a pu marquer, je crois qu'il a failli en mettre un autre. Enfin voilà, il y a eu plusieurs situations, heureusement qu'il y avait Alisson.
C'est pas lui qui marque, mais il aurait pu marquer.
C'est pas lui qui marque, je ne sais même plus qui marque.
Non, c'est le latéral droit dont j'ai
oublié. Ah, Decordo-Varid, là, le Canadien, avec un nom pas possible.
C'est ça, qui a plus un look à la Gerald Green en NBA qu'un look de footballeur, mais qui a marqué un super but.
Jamaïcain, je sais pas pourquoi je le vois alors canadien.
Je ne sais pas si on arrivera jusqu'à Lille, là, il est 13h19, mais ça envoie des gros matchs en Europa League, là. Parce qu'il y a eu Real Sociedad Manchester et Benfica Arsenal. Donc j'espère jouer la montre un petit peu, là je parle dans le vide pour qu'on arrive jusqu'à Lille. Mais tu vas continuer avec ton deuxième pari, Christophe, c'est un match en Serie A, une des équipes qu'on évoque le plus cette saison, c'est Sassuolo qui se déplace à Florence.
C'est ça, quelle équipe va gagner sans rien encaisser? Sassuolo 5,40. C'est ma petite cote risque, en espérant que, bon, si ça passe pas, l'autre qui est au-dessus des deux me mette quand même en positif sur le week-end. Sassuolo, alors il y a cet accident face à l'Inter, mais qui était bien provoqué par Chiriches, qui était dans un très mauvais jour. Sinon, last weekend, victoire 1-0 face à Benevento. La semaine d'avant, 0-0 sur le terrain de la Roma, donc il y a ce 0-3. La semaine encore d'avant, victoire 2-0 sur le terrain du Hellas Vérone. 0-0 face à Udine la semaine d'avant. Et encore avant, victoire 2-0 face à Naples. Donc cette équipe qu'on imagine offensive, et c'est vrai qu'elle a des vrais principes de jeu, une vraie envie de savoir comment on va dans le camp adverse, bah du coup elle dicte quand même beaucoup le tempo du jeu, elle contrôle beaucoup et parfois c'est du contrôle qui casse un peu le rythme, qui voilà, c'est pas toujours ultra en balance, c'est-à-dire c'est beau, c'est propre, mais si le bloc adverse est bien en place, bah t'as beaucoup de possessions assez neutres, on va dire, mais au moins ça te protège du fait d'encaisser des buts. Alors Sassuolo a quand même encaissé 12, mais c'est ramassé sur quelques matchs, comme je disais, il y a eu 3 buts pris face à l'Inter, il y en a eu aussi 3 face au Torino, 3 face à Bologne, donc globalement il y a plus de matchs sans encaisser qu'en encaissant. Donc là c'est pour le volet Sassuolo, je pense qu'ils ont quand même moyen de ne pas encaisser de buts, comme c'est pas mal la tendance en ce moment. Et puis sinon Sassuolo est 5e, la Fiorentina est 17e. Donc accompagner ça d'une victoire face à la Fio qui change chaque année, je l'ai un peu comparé à Schalke, c'est-à-dire que tu changes beaucoup de choses mais ça fonctionne pas souvent. Je me dis que voilà, la Fiorentina qui continue un peu sa spirale négative face à une équipe qui est mieux classée qu'elle, une cote à plus de 5, c'est quand même très très tentant.
Merci Christophe pour tes paris. On n'arrivera pas jusqu'à Lille, donc on en parlera lors d'un prochain épisode ou sur Twitter, ou peu importe, on verra le tirage lillois, parce que là, ils sont d'abord sur les premiers de groupe et les reversés de Ligue des Champions. Donc, je suis un peu paumé, je comprends pas ce tirage de Ligue Europa. Voilà, merci messieurs, je parle tout seul, merci messieurs pour vos analyses et vos paris cette semaine. Christophe, tu es à la veille d'une lourde opération, on te souhaite bon courage. Et bonne chance.
Bien, merci, je penserai à vous.
On te retrouve en 2021, du coup, logiquement, si tout va bien, pour le prochain épisode avec toi. Mais nous,
si tout va
mais
bien,
nous Florent, on a un dernier épisode à enregistrer en cette année 2020 et on réfléchit encore au contenu de cet épisode.
Oui, on verra. Pour l'instant, est-ce que la Megadrasse va faire son retour ? Est-ce qu'on fera un bilan de l'année ? Une année très spéciale. Est-ce qu'on aura un ou plusieurs invités ? On ne sait pas. On va y réfléchir et vous verrez ça de toute façon en début ou en courant de semaine prochaine. Voilà. Et sachant que entre-temps, il y a aussi le 11e épisode des 120 qui sera monté et sorti.
Oui, avec un guest sympathique d'ailleurs. Donc ça s'est très bien passé cet enregistrement. Je ne sais pas si c'était le plus long, mais c'était bon. Merci messieurs, on se retrouve donc la semaine prochaine avec Flo et en 2021 avec la machine indestructible. Ciao.
Salut.
Cordialement.
Vous avez tout compris grâce à ce podcast. C'est le moment de parier sur PMU.fr. PMU, que les meilleurs gagnent.